Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2016. Si je vous demandais que s'est-il passé le mardi 11 septembre 2001, plus fort, 2001, 15 ans, les tours jumelles, voilà. Et le soir, où étiez-vous quand le mardi 11 septembre 2001. Où étiez-vous ? À la réunion de prière. Je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui, parce que quand je voyais arriver les uns les autres, votre visage était décomposé. Je me souviens de cette réunion qui a marqué tout particulièrement l'humanité. Et devant ce drame qui est resté dans bien des cœurs, nous avons demandé la grâce et la bénédiction du Seigneur. Tout à l'heure, nous avons lu en introduction « Donne-nous du secours ». Contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. C'était en 1974, je me trouvais dans la salle d'attente d'un cabinet médical quand tout à coup, une communication téléphonique entre une dame de son domicile et puis le docteur secrétaire, et j'ai entendu le nom Potier. Bien sûr que ça retentit dans mon cœur, et le docteur est venu immédiatement. Il a dit « Je pars faire une urgence ». Et donc, après son retour, m'auscultant, je suis vite allé dans une demeure où s'appelait Potier. Les chrétiens venaient d'être frappés. Le garçon avait à peine un an, frappé d'une méningite cérébrospinale. Il a été évacué sur l'hôpital de Lisieux. Et quand la maman est arrivée, on lui a dit « Vous restez, on va vous redonner l'enfant parce que c'est terminé. » Avons appelé les uns les autres, les chrétiens, et puis nous nous sommes mis en prière. Chacun a pris une heure. Et vers 4 heures du matin, j'ai appelé l'hôpital pour demander l'évolution de cet enfant, de ce bébé. Et l'on m'a dit, il est hors de danger. Que Dieu soit béni. Et sauf erreur, je crois qu'il est entré dans le ministère, puisque c'est le frère de notre frère Daniel Potier, qui a travaillé au milieu de nous. Je crois qu'il est important, il y a des choses qui marquent notre vie. Bien sûr, quand on n'est pas concerné, Quand on est spectateur, c'est une chose, mais quand on devient acteur, c'est une autre chose. Il y a des choses qui marquent notre vie. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons voir ensemble d'où me viendra le secours. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 121e. À partir du verset 1er. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ, ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. C'est dans ce premier verset d'où me viendra le secours. Comme moi, quand vous partez en voyage, vous préparez votre voyage. Et nous le préparons d'une manière très méticuleuse. Il faut absolument que rien ne manque. Et nous faisons la prière pour que Dieu nous bénisse les uns et les autres. L'Ars n'était pas le même voyage avec le véhicule, mais tout simplement, c'était les pèlerins. Les pèlerins se rendaient à Jérusalem et les uns et les autres arrivaient de droite et de gauche et arrivant aussi dans un endroit avant Jérusalem, ils se retrouvaient, croisement des routes, et ils arrivaient avec les différents degrés quand ils montaient au temple, à la maison de Dieu, et quand il chantait ou lisait le psaume 133e, ils étaient vraiment heureux de se retrouver. Le voyage était dangereux, mais leur foi, leur espérance était « Il gardera notre âme, il nous gardera de tout mal, et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Le long du voyage, ils se disaient les uns les autres, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Ce n'est pas « je lève les yeux vers le ciel de gloire ». Car lorsque l'on lève ses yeux vers le ciel de gloire, on pense à Dieu, on prie Dieu, On le bénit parce qu'on sait qu'il est dans la gloire et qu'il remplit les cieux et la terre. Mais là, je lève les yeux vers les montagnes. Lorsque vous lisez une période difficile d'Israël, quand ils abandonnaient Dieu et qu'ils retournaient vers les idoles, on remarque que les hauts lieux étaient là avec les idoles, avec les prêtres de Baal et autres, et le peuple de Dieu allait vers les montagnes pour trouver du secours. Lorsque nous étions inconvertis, incroyants ou ayant une croyance, dès lors que nous avions quelque chose, un problème, une difficulté, eh bien nous aussi on pouvait aller vers les montagnes. On avait nos montagnes, on allait chercher la protection, on allait chercher en quelque sorte la délivrance, la bénédiction venant d'un homme, d'une femme. Enfin, chacun sait ce qu'il allait chercher. Mais il fallait regarder plus loin que les montagnes. Les montagnes, ce n'était point là le secours. Il n'y avait aucun secours. Alors, dans ce départ, avant de faire cette longue route, d'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra pas des montagnes, mais le secours, il me vient de l'Éternel. Me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et ce que l'on remarque, il vient d'en haut. Il ne vient point d'un homme, d'une femme, mais il vient du Créateur, de celui qui n'a ni commencement ni fin, qui voit tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Il, ses yeux observent. Et même on posera la question à David au psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Et aujourd'hui, bien des fondements sont renversés. L'injuste que ferait-il? Il y a travaillé à renverser ces fondements, à se plaire dans cette ruine morale, physique, spirituelle. Mais le juste que ferait-il? Eh bien, le juste, lui, il a ses propres fondements qui sont à l'intérieur de son cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes avec les enfants qui bâtissons intérieurement. Les fondements sont dans notre cœur. Depuis le jour où je connais le Seigneur, depuis le jour où je marche avec le Seigneur, depuis le jour où vous marchez avec le Seigneur, il y a ces fondements. Non point les vôtres, certes, ils sont votre propriété. Mais notre fondement, c'est Dieu. Notre fondement, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Notre fondement, c'est la parole de Dieu. Notre fondement, c'est le Saint-Esprit. Notre fondement, c'est aussi notre vie familiale, notre vie de couple avec nos enfants. Notre fondement, c'est aussi notre vie professionnelle. Là où nous sommes, nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je me suis toujours posé la question, quand l'être humain arrêtera-t-il dans sa folie de continuer à renverser tous ces fondements qui ont fait la force de notre vie, qui on conduit notre vie et on finit par s'y habituer parce que ça devient un fait de société. Eh bien, bien-aimés dans la foi, L'Éternel gardera ton départ. L'Éternel gardera aussi ton arrivée. Et dès que tu seras arrivé, il faudra aussi faire le retour. L'aller se faisait dans l'allégresse. Et le retour se faisait dans une allégresse bien autre encore. Parce qu'ils avaient rencontré le Seigneur. Ils avaient été au temple. Ils avaient partagé les nouvelles entre familles, entre amis, entre juifs. C'était des moments de réjouissance extraordinaire. Savons-nous nous réjouir dans le Seigneur? Savons-nous nous réjouir dans la communion fraternelle? Savons-nous nous réjouir des hommes et des femmes remplis de joie et d'allégresse? Il est vrai que c'était à une période. Mais notre départ, il y eut un départ. Il y a quelque temps, je suis allé dans un endroit où je suis né. Nous sommes allés à l'inhumation de l'une de mes tantes, plus que centenaire, et je me suis dit, c'est là que je suis né. C'est là que je suis né, dans cet hôpital. Et en retrace, c'est là, en réalité, que j'ai commencé ma vie. Et votre vie, elle a eu un départ quelque part. Et vous savez que l'épître de Jacques, au chapitre 3e et au verset 6e, il nous parle. Et en flamand, c'est la langue, le cours de la vie. Le cours de la vie. En réalité, c'est la roue de la naissance. La roue de la naissance. Et quand vous regardez la roue, elle tourne. C'est toujours pareil, la roue. Vous partagez ce sentiment? Prenez une roue. Était là sur un essieu, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et la vie, on a l'impression qu'on tourne et qu'on tourne en rond. Et un jour, il y a eu un départ pour vous. Il y a eu un départ pour moi. Et les circonstances ont fait que parfois nous avons été placés devant certaines difficultés. J'aurais voulu naître dans un foyer chrétien. J'aurais voulu que mes parents soient des parents pentecôtistes, nés de Dieu, nés de nouveau. J'aurais voulu que mes parents m'amènent à la maison du Seigneur. J'aurais voulu être dans les bras du pasteur, où il invoquait la grâce et la bénédiction du Seigneur. J'aurais voulu connaître ce que l'on appelle l'heure des enfants. J'aurais voulu connaître les chants à la maison. J'aurais voulu connaître aussi la lecture de la parole de Dieu. J'aurais voulu connaître tout cela. Mais enfin, je n'ai pas connu tout cela. On n'a pas cherché à les connaître. C'est passé. C'est la roue de la naissance. La roue de la naissance, c'est le départ d'une vie. Je ne sais pas pour certains, quand je vois cette migration, ces hommes, ces femmes, ces enfants sur les bateaux sur l'océan, sur la mer, je vois toutes ces catastrophes, je me dis c'est quelque chose de terrible. Certains semblent plus privilégiés que d'autres. Mais une chose est certaine, quand je lis la Bible, je m'aperçois que quel que soit le départ de l'être humain, Dieu vient toujours rencontrer l'être humain. Vous vous souvenez d'Abraham? Abraham, quand il arrive dans le pays de Canaan, c'est l'épreuve. Dieu lui a promis un pays qui va couler le lait et le miel. Et c'est l'épreuve. La réaction d'Abraham, c'est de descendre en Égypte. Et quand il descend en Égypte, il a le privilège, il a une femme qui est jolie, et il dit à sa femme, écoute, c'est formidable d'avoir une femme jolie comme toi, mais tu sais que moi, je risque ma vie. On va me tuer. Alors, Sarah, t'as pas envie de tomber veuve. Puis moi, j'ai pas envie de mourir. Alors, on va s'arranger. On va monter une petite histoire. Et si c'est découvert, on dira que on est frères et sœurs, ou demi-sœurs, demi-frères. On va s'arranger. Vous savez, c'est grave. Quand un couple comme ça en arrive à mentir, ils préparent leur mensonge à l'égard des événements, peut-être. Mais dès que j'ai compris ça dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que lorsque je mentais, la première personne à qui je mentais, c'était à moi-même. Et je me suis dit, si je mens à moi-même, il y aura quelque chose de faussé toute ma vie. Toute ma vie. Quand je commence à mentir, la première personne à qui je mens, c'est à moi-même. Et vous avez bonne conscience? Non. Pas bonne confiance. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas de moyen mensonge. Il n'y a pas de gros mensonge. C'est pas vrai. Le mensonge s'appelle le mensonge. Et le mensonge vient pas de Dieu. Est arrivé ce qui est arrivé, eh bien, Sarah s'est retrouvée dans le harem de l'Égypte. Et Dieu est intervenu. Dieu a protégé Sarah. Bien sûr que Abraham, il a été mis dehors de l'Égypte. Il est remonté avec des serviteurs, avec des servantes, avec du bétail, des richesses. À première vue, quand on voit ce couple remonter de l'Égypte, on se dit, ça vaut la peine de descendre dans l'Égypte. Ça vaut la peine de pécher quand même. Regardez la bénédiction de Dieu qui m'est accordée. Mais vous savez que il y avait dans le cadeau de l'Égypte une jeune fille. Comment s'appelait cette jeune fille? Elle s'appelait Agar. Et Agar est la rive de l'Égypte. C'était aussi la roue de la naissance. C'était pas programmé dans sa tête. Certes, sa vie n'était pas belle en Égypte. Mais de partir avec un étranger, de partir comme cela, marchant, c'est quand même quelque chose de terrible. On a imposé à cette femme ce style de vie. Nous connaissons l'histoire parce que Dieu avait fait une promesse à Sarah que malgré son âge, où c'était impossible à Abraham comme à Sarah d'avoir un enfant. La coutume païenne à cette époque était mère porteuse. À cette époque, ça existait. Alors, Sarah dit peut-être, c'est l'amorce d'une conversation. entre Sarah et Abraham. Mais si tu vas vers cette servante Agar, peut-être que nous aurons le fruit de la promesse. Et vous connaissez la suite. Quand Agar s'est retrouvée enceinte, Sarah a méprisé sa servante. Et la Bible nous dit que cette jeune femme, se retrouvant enceinte, elle est partie. Elle s'est enfuie. La parole ne nous cache rien, la parole de Dieu. Et bien sûr, la marche dans le désert, c'est quelque chose de terrible. Que d'hommes et de femmes sont morts dans le désert. Il y a quelque temps, un petit garçon a perdu sa maman dans le désert en Amérique par manque d'eau. Et son papa est décédé sous ses yeux. Vous vous souvenez de ce terrible drame. Et là, elle est près d'une source d'eau dans le désert. Elle est seule. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel la trouva et lui dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Dieu s'intéresse d'où nous venons et où nous allons. De la même manière, Dieu nous dit cet après-midi: d'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Et cette femme, Agar, verset 2 du chapitre 16, dit: je fuis loin de Saraïm, ma maîtresse. Je suis en fuite. Je suis en fuite. C'est inné en nous, la fuite. Quand nous avons certains problèmes, nous aimons fuir. Serions tentés de prendre l'avion et de partir au bout du monde. Terminé, j'ai plus de problèmes, plus de difficultés. Serions tentés, quand on est enfant, de ne pas aller à l'école. On s'est tenté, nous adultes, de ne pas aller au travail. On a des tentations. Je fuis. Je suis en fuite. En réalité, tout a contribué contre cette femme. Les fautifs, c'était quand même Abraham et Sarah. Il faut quand même être juste. Et l'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors là, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez raison. Et l'ange de l'Éternel dit: retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. Mais, j'ai raison quand même. Et quand j'ai raison, je suis en position de force. Comment retourner vers ma maîtresse et m'humilier et connaître encore l'humiliation? C'est impossible. Ça ne peut pas exister, ça. Comme un jour, un papa disait à son petit garçon: mets-toi à genoux, demande-moi pardon. Il y a des enfants qui ont de la tête. Hein. Je préfère maintenant être grand-parent que parent, je vous le dis. Enfin, on a fait notre grande marche avec 5 enfants. Mais ils ont de la persévérance, les petits. Hein. Ils ont du tonus, les petits. Hein. Ça a de la personnalité, hein ? Mais vous dire que ça a de la résistance. Et à la fin, le papa, il se met comme il faut en colère, il dit « Tu te mets à genoux, sinon... » Alors l'enfant, il dit bah, « Écoute, papa, hein, je me mets à genoux, je suis à genoux, mais dans mon cœur, je suis debout. » T'as le tarif. Je suis à genoux, mais dans mon cœur, je suis debout. Les garçons, dites pas ça à votre papa. Parce qu'après, on va dire que c'est moi qui vous ai donné le conseil. Pas du tout, c'est ce qu'un enfant a dit. Pas du tout. Mais l'ange de l'Éternel va quand même promettre. En réalité, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Et l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un ange sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous seront contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Vous avez vu que cette parole est encore accomplie au XXIe siècle. Vous avez vu ? Entre Isaac et Ismaël. Entre Ismaël et Isaac, c'est d'actualité ça, hein ? Quand Dieu a parlé, alors elle a fait le retour. Elle a fait le retour. Et quelque temps après, Isaac est venu, est né. Mais le jour de la fête, pour Isaac, l'enfant, fut sevré, fut un grand festin. Et puis, Sarah, elle était attentive à tout ce que Agar pouvait faire, à tout ce que le fils pouvait faire. Moindre chose, moindre cheveu en mèche, là. La Bible nous dit, Sarah vit le rire qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. C'est incroyable tout cela. Et Abraham, il a mis de l'eau, du pain sur l'épaule, et lui a mis aussi l'enfant, non ? Elle est partie. Elle est partie, puis la Bible dit qu'elle s'est égarée dans le désert. Et quand vous vous égarez dans le désert, en général, vous mourrez dans le désert. Et cette femme... Quand l'eau de l'Ourdre fut épuisée, elle laissa son enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. Que je ne le vois pas. » Cet enfant a eu un départ. La roue de la naissance. Et on peut chercher dans toute la Bible. Vous retrouverez exactement tous les faits de société, tout ce que les hommes et les femmes ont dû traverser. Il n'y a pas besoin de faire le tour du monde. Vous lisez la Bible du commencement jusqu'à la fin et vous voyez exactement tous les problèmes, toutes les difficultés. Mais la Bible nous dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Parce que l'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Moi, j'aime tous ces détails. Le lieu où il est, c'est l'endroit de la mort. Il n'y a plus à boire, il n'y a plus rien, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et Dieu a sauvé cet enfant. Et l'ange, elle dit ensuite, quand ses yeux sont ouverts, parce que ses yeux sont ouverts, elle a vu un puits d'eau, elle s'est dit, mais Dieu m'a vu, et j'ai été vu par Dieu. À un autre endroit, ai-je vu ici, après qu'il m'ait vu ? Dieu nous voit et nous voyons Dieu dans notre vie. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Et je ne sais pas, je termine, où est-ce que vous en êtes avec la roue de la naissance. C'est vrai qu'on n'est pas épargnés les uns les autres, mais Dieu fait la marche avec nous. Dieu fait sa marche avec nous. Il entend notre cri, notre pleur dans notre chambre. Il entend, il voit notre dessèche intérieure, ce qui nous amène à crier, mais Dieu n'est pas insensible. Il voit toutes ces choses. Il le voit. Est-ce que nous le croyons? La roue de la naissance, le cours de la vie, parce qu'un jour Dieu s'est mis sur notre route. Il a été celui qui a été le grain de sable. Et des fois, j'arrive avec des personnes, leur dis, je veux être le grain de sable qui va arrêter la machine. Cette machine infernale, quand elle tourne un peu plus vite qu'il le faut, et Dieu est celui qui veut arrêter. Non pas pour arrêter l'histoire de notre vie, mais pour changer l'histoire de notre vie. Il a entendu notre cri. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. On dit, je ne peux pas porter toute la souffrance du monde. C'est un dicton, ça. Dieu ne vous a pas demandé de porter toute la souffrance du monde. Il n'y en a qu'un seul qui l'a porté, c'est Jésus-Christ, sur la croix du calvaire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il voit les peuples, il voit les garçons et les filles, il voit tout cela, cette détresse, il la voit. Vous avez vu comme moi, très certainement, aux informations d'hier, ce couple américain, dans la voiture, sous l'effet de la drogue, avec leur fils qui est derrière, c'était fiché encore. Mais là, en Amérique, rien n'était fiché. C'était à vue. On a vu l'enfant, on a vu les parents, les gens ont vu ça. Et pourquoi on a fait voir ça? Parce qu'il faut marquer les gens. Il faut que les gens voient la réalité de la société. Il faut que les gens voient la réalité de la société. La réalité du monde. Et la croix du calvaire a été dressée au Golgotha pour que notre vie change. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie, mais Dieu est maître de notre vie. Il est seigneur de notre vie. Notre vie est devenue ingouvernable, très certainement. On ne voyait ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Satan, personne. Et quelle fierté. Mais en réalité, il y avait l'addiction qui était là. Ni Dieu, ni maître, ni Satan, ça n'existe pas. Dieu est Dieu. Le diable est le diable. Et nous avons tous un maître dans notre vie. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu. Et moi, dans ma vie, j'ai un maître, j'ai un Seigneur qui m'aime, qui dirige ma vie, qui ne conduit pas ma vie avec un collier, avec un bâton, mais il conduit ma vie avec amour. Il conduit votre vie avec amour. Il faut accepter qu'il vienne dans notre cœur, qu'il nous console, qu'il nous guérisse. Vous ne pourrez jamais absolument rien faire. Vous ne pourrez pas pardonner. On ne peut pardonner qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur. Nous sommes dans l'incapacité de pardonner. Même si on nous dit « retourne-toi, humilie-toi », on est dans l'incapacité. Ce sont des gestes qui sont impossibles à l'être humain. Mais Dieu nous aide. Dieu nous aide. termine par ce témoignage. Il y avait un jeune homme, il avait 18 ans. Et un soir, à la maison, ce jeune homme découvre quelque chose chez son père, et c'est la grande détresse. Et ce jeune homme se met en travers de son père. Et quelques jours après, ce jeune homme a décidé d'assassiner son père. Ce jeune homme a décidé. Le front est déjà touché, le cuir chevelu est déjà touché. C'est fini. Je vais te tuer. Le père s'enferme. Il a peur. Le fils part. À un endroit, il y avait toujours le couteau. Et là, il n'y avait pas de couteau. Il était autre part. Un gros couteau. Le fils s'en va. Avec cette rupture irrémédiable. Quelque temps après, le fils vient voir ses frères, ses sœurs. Et l'épouse, Marie, sort. Elle lui dit à ce jeune homme, « Rentre, ton père est là. » Et le jeune homme dit, « Non, je repars. Non, viens. » Le jeune homme va rentrer dans la maison. Il voit son père qui fait 1m85, 1m90. Et il se jette dans les bras de l'un et l'autre, sans parole. Sommes-nous capables de nous réconcilier sans parole? Sommes-nous capables de vider l'amertume de nos cœurs, la haine de nos cœurs. Dieu a fait grâce et Dieu nous fait grâce en Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Nous lui demandons sa grâce. Go, friends, expire the light. Thank you, Ryan, the four images, God. Seigneur, entends notre cœur. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés et tu garderas notre arrivée. Seigneur, tu nous feras du bien en ta présence. Dans notre marche, nous te prions de nous bénir ensemble. De bénir celles et ceux qui vont écouter ce soir sur le site là, ce message. Fais leur grâce, Seigneur. Pardonne par ton sang précieux. Pardonne par ta grâce qui s'est manifestée. Le secours nous vient et nous viendra de l'Éternel. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Entends mon cœur. On pourrait se lever, entends mon cœur. Ton frère Wilson, là aussi, va prier pour vous.